J'ai toujours du plaisir et de la joie de me trouver parmi vous. Ça fait pas mal de mois que nous avons été séparés, il y a eu les vacances, et puis les mois d'automne, septembre, octobre, je me trouvais donc au Québec pour une série d'enseignements, d'évangélisation d'enseignements. Et cet été, j'ai été orateur avec mon épouse dans un camp de célibataires. Pour la première fois en ministère pastoral, on m'a demandé de parler à des célibataires, hommes et femmes. Et c'était très très intéressant pour mon épouse et pour moi-même d'être en contact avec des personnes célibataires à l'aide de 25 à 52 ans. Vous voyez, c'était assez vaste, hein. Cet après-midi, nous voulons voir ensemble ce que c'est qu'être un homme de Dieu d'après ce court texte qui vient de nous être lu par notre sœur. D'après le texte qui vient de nous être lu, un homme de Dieu se reconnaît à ce qu'il fuit, à ce qu'il recherche et à ce qu'il combat. Le terme homme de Dieu, dans le contexte de l'épître à Timothée, est aussi un contexte générique, c'est-à-dire qu'il s'adresse à chacun d'entre nous. Si vous voulez, en tant que sœur, être une femme de Dieu, alors prêtez attention également à ce texte et à ce qu'il contient. Et vous, les frères, les hommes, eh bien, si vous voulez être des hommes de Dieu, sans parler particulièrement d'exercer un ministère, si ce n'est celui du sacerdoce universel, donc être prêtre et roi pour Dieu, alors prêtez également attention à ces caractéristiques et à ces indications que Dieu nous donne dans sa parole inspirée. L'homme de Dieu se reconnaît à ce qu'il fuit. Au verset 11, Paul nous exhorte à fuir. Dans le grec, c'est un impératif présent qui souligne qu'il s'agit d'une fuite active et constante. Mais quelles sont ces choses qu'il faut fuir? Ces choses que nous devons fuir. Le contexte direct nous parle, au verset précédent, de la cupidité, de l'amour de l'argent, des convoitises. Il est dit au verset 10... De la même épître, même chapitre, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et nous le savons, l'argent est une des choses qui peut détruire le plus les créatures que nous sommes. Même certains chrétiens qui, en exerçant parfois même un ministère, se sont laissés emporter par un amour de l'argent. C'est un mal donc qui détruit beaucoup d'hommes de Dieu, et c'est le péché capital des faux enseignants. Parmi tous ceux qui sont à l'origine de sectes, assez souvent, pour ne pas dire toujours, il y a un énorme intérêt pour le sexe et pour l'argent. Et il y a les exemples bibliques qui ne manquent pas dans les Saintes Écritures, donc, de Balaam, qui s'est vendu au plus offrant pour maudire le peuple d'Israël, à Démas, le compagnon de Paul, qui l'a quitté pour l'amour des biens matériels, en passant par Judas, qui a trahi le Christ pour 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes invités à devenir participants de la nature divine. Comme le dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 1, verset 4, il dit « participants de la nature divine en fuyant » la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là encore, l'apôtre Pierre nous parle de fuir. Fuir la corruption et la convoitise. Notre société justifie tout et n'importe quoi. Au titre de la consommation qui est à son paroxysme, eh bien, la règle est de gagner toujours plus. La société dans laquelle nous grandissons et dans laquelle je vieillis, eh bien, c'est une société de consommation, de plaisir, de convoitise, de facilité, de crise spirituelle et du coup la spiritualité économique. Dites cette génération qu'on appelle une génération corrompue. Mais il ne faut pas s'enfermer dans un monastère pour autant, car être dans le monde sans être du monde, c'est justement ça le but de la fuite. Le but du chrétien, c'est de fuir le monde tout en restant dans le monde. Pourquoi ? Parce que nous avons un témoignage à porter. Nous sommes des modèles, des exemples, des sujets d'interrogation aux yeux de ceux que nous connaissons, là où Dieu nous a placés, dans notre famille, au travail, à l'université, dans le quartier où nous habitons. Nous, les hommes et les femmes nous regardent et ils veulent voir autre chose que ce qu'ils voient à la télévision et dans la vie de tous les jours. Ils veulent voir des gens droits, sains, justes, heureux. Et c'est en cela que Dieu nous demande de fuir certaines choses, parce qu'il veut nous maintenir dans ce monde comme des témoins. Nous devons fuir donc la corruption et les convoitises de ce monde, mais pas le monde, comme vous le savez. Car nous devons gagner ce monde à Christ, si nous sommes encore en vie et exerçant une profession ou faisant des études, c'est parce que Dieu nous veut là, sur cette terre, comme témoins. Il y a certes des situations inextricables dans lesquelles nous devons fuir physiquement, sans hésiter, comme celle de Joseph, le fils de Jacob, devant les avances de la femme de Potiphar. Il y a même laissé son vêtement, en Genèse chapitre 37, versets 7 à 15. Mais le chapitre 6 de 1 Timothée, donc le texte qui nous intéresse, met en exergue d'autres choses à fuir. Par exemple, l'orgueil, les envies, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, au verset 4 du chapitre 6. Pour quelle raison, nous est-il dit au verset 14, pour vivre sans tâche et sans reproche. Il faut non seulement fuir les choses matérielles, il faut également fuir physiquement dans certaines situations, mais aussi il faut fuir les mauvaises pensées et les paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. En quelque sorte, il faut s'interdire certaines pensées et certains propos. Voilà globalement et rapidement présenté ce que nous devons fuir. Encore un petit mot sur l'argent. Plus la crise est importante, plus le besoin de sécurité financière s'impose à nous. Et c'est remarquable comment dans ce chapitre 6, l'avertissement de ne pas se laisser séduire par la puissance de l'argent est compensé par une vie de foi en Dieu. Car Dieu est au courant des situations qui sont les nôtres. Dieu connaît nos faiblesses et nos inquiétudes. Et il nous dit, mais pour être un homme, et pour être, pardon, une femme et un homme de Dieu, il faut fuir ces choses en se réfugiant dans la foi, en faisant confiance pour qu'il prenne soin de nous. Mais ce point-là, un des grands messages du sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Il fait fleurir les lys des champs, il l'habille d'une manière magistrale, il nourrit tous les oiseaux du ciel. Donc vous voyez, fuite et foi. Non pas fuite pour être reclus quelque part et vivre une vie insatisfaisante, de refoulement, mais fuir pour vivre quelque chose d'intense, une intimité avec Dieu, une vie de foi. Grandir dans la foi par rapport à des choses extrêmement concrètes comme les nécessités financières qui s'imposent à chacun d'entre nous. L'homme de Dieu se reconnaît, deuxièmement, à ce qu'il recherche. Plus que de fuir, le Seigneur nous entraîne à poursuivre un but ou un objectif. Le message chrétien, ce n'est pas simplement de ne pas faire le mal, mais c'est que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, nous pousse à faire le bien. Il n'y a donc pas de neutralité dans l'attitude d'un homme, et dans l'attitude d'une femme et un homme de Dieu, c'est-à-dire d'un chrétien en général. On fuit pour vivre. On fuit le mal pour vivre le bien. C'est-à-dire pour être en accord avec ce que nous croyons, avec celui en qui nous avons placé notre confiance. Expérimenter dans nos corps mortels la puissance de la vie de résurrection. La capacité de fuir le mal pour vivre le bien. Autrement dit, comme la Bible l'utilise parfois, connaître l'indépendance par rapport au péché pour vivre la dépendance du bien, c'est-à-dire la dépendance de Dieu. Nous abandonnons des choses pour vivre autre chose. Le texte présente deux vertus générales qui sont complémentaires et qu'il nous faut rechercher. La justice et la piété. Recherche la justice et la piété. La justice, elle englobe la notion d'intégrité personnelle. Autrement dit, la justice, dans ce contexte, est une sainteté de vie. Agir correctement envers Dieu et envers les hommes. L'homme de Dieu fait le bien. Et voilà à quoi on le reconnaît. L'homme de Dieu est celui qui va rappeler ce qu'est la justice, là où il est placé. Et vous savez que notre monde crie après l'injustice et réclame justice. Et certes, des femmes et des hommes capables de parler de justice, ce sont bien ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont été justifiés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et qui savent ce que c'est que d'être en relation personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Des hommes et des femmes dont la nature de Christ vit dans leur corps mortel. Et nous sommes appelés, vous et moi, à non seulement défendre la justice, mais à la rendre, et pour la rendre, il faut la faire. Nous sommes donc appelés à faire justice, à rendre justice, à établir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et à rappeler autour de nous, aux hommes et aux femmes qui se perdent, la voie de la justice, de la vérité, avec amour, avec patience, avec persévérance, sans violence, mais de leur rappeler ce qui est juste, c'est ceci, ceci, cela, et non point ce qui se passe actuellement dans tel domaine. L'homme de Dieu qui manifeste la justice, il a un style de vie caractérisé par l'obéissance au commandement de Dieu. Voilà comment la justice sera remarquée dans nos vies par ceux que nous côtoyons. Ils vont se rendre compte qu'au fil des mois, des années, nous avons un style de vie qui manifeste, qui exprime un comportement juste. La piété, c'est le pendant intérieur à la justice. La justice, qui est donc la bonne conduite, ne peut découler que de bons motifs. L'attachement à Dieu, c'est ça la piété. S'attacher à Dieu. Connaître sa part, sa volonté. Chercher à lui faire plaisir. Passer du temps en sa compagnie. Chercher sa face. Ça, c'est la piété. Piété et justice vont ensemble. Parce que la source de la justice, c'est Dieu. Il faut venir à la source même. Le livre des psaumes nous dit que Dieu s'enveloppe de la justice comme d'un manteau. Ça veut dire que intrinsèquement, Dieu est juste. C'est le seul à être juste, parfaitement juste. Et donc, il va nous communiquer cette capacité, nous-mêmes, dans nos corps mortels, de vivre cette qualité intrinsèque de Dieu. L'attachement à Dieu, le respect, la révérence qui déborde d'un cœur qui cherche la face de son Créateur, la recherche de la ressemblance à Dieu. Ensuite, il y a des qualités intérieures qui découlent de ces deux vertus générales. C'est la foi, Ça, c'est une qualité intérieure. Avoir la foi. Vivre par la foi. Même quand on gagne un salaire. N'oublions pas que c'est pas parce qu'on gagne un salaire qu'il faut se passer de la foi. Il y a des chrétiens qui disent « Ah ben, j'ai ce qu'il faut, un peu de sous dans mon compte en banque. » Et du coup, ils ont une façon de s'orienter dans leur relation avec Dieu qui est assez curieuse. Comme s'ils pouvaient se passer de Dieu. Parce que matériellement, ils ont, comme l'on dit en français, leurs arrières garanties. Mais c'est une folie. Ils peuvent tout perdre d'un instant à l'autre. Et puis, même s'ils ne perdent pas l'argent et leur capacité financière, Dieu nous appelle justement à une vie de foi. La foi, c'est-à-dire la dépendance et la confiance en Dieu et en sa puissance. Confiance dans le plan que Dieu a pour nos vies et pour notre Église, pour l'Église qui est la vôtre, que vous représentez. Confiance et foi dans ses promesses. Et la foi, c'est aussi associé à l'amour, qui est souvent par Paul associé à la foi. La foi, ça a été là écrit charité, et en vocabulaire actuel, c'est charité, c'est l'amour. La foi, l'amour, la patience, la douceur. Ainsi, comme il est dit dans le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous comprenez que si on veut aimer les autres, il nous faut absolument aimer Dieu. C'est pour ça que le Christ lui-même a mis un ordre chronologique dans les commandements. D'abord aimer Dieu pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même. L'humanisme français, voire même l'humanisme chrétien, je ne parle pas évangélique, hein, l'humanisme chrétien nous présente plutôt le fait de puiser en nous-mêmes la capacité d'aimer les autres. C'est une folie. Nous devons d'abord nous soumettre à Dieu, dépendre de lui, recevoir son amour pour pouvoir aimer les autres, comme Dieu désire que nous les aimions. L'amour dont il est question ici, foi et amour, c'est l'amour agapé, dans le grec. Un amour volontaire qui inclut la notion de sacrifice. L'amour qui a animé notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur cette terre prendre un corps semblable au nôtre pour s'offrir à notre place, pour nous racheter de nos péchés. Paul présente aussi deux caractéristiques extérieures et dignes d'un homme de Dieu, la patience et la persévérance. Et la douceur ou maîtrise de soi, parce que dans le fond, la douceur, c'est la maîtrise de soi, qui englobe également une notion d'humilité, car l'homme de Dieu sait qu'il ne contribue personnellement en rien à son succès, à sa réussite. C'est pour cela qu'il nous est dit dans ce verset, « Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. » Et en qui allons-nous trouver ces vertus ? Dans la personne de Dieu. Puisque la douceur, c'est la maîtrise de soi. Quelle plus belle expression que la maîtrise de soi que celle de notre Seigneur Jésus-Christ dans les Évangiles, qui maîtrisait parfaitement sa vie et son ministère. Il aurait pu, en un clin d'œil, demander aux myriades de myriades d'anges de venir le sauver et balayer tous ces Romains et Ponce Pilate compris, mais telle maîtrise, conscience de lui-même et désir de servir et d'aimer Dieu son Père. Enfin, Paul exhorte Timothée à chercher à garder le commandement, verset 14, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et ce, par trois moyens, quand on lit le texte, par le Saint-Esprit qui habite en nous, ça se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 14, il parle de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ensuite, par Dieu, au verset 13, on revient à notre texte direct, par Dieu qui donne la vie à toute chose, et par Jésus, donc, qui est l'exemple suprême dont il est question ici, dans notre texte, hein, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Il y a certes un prix à payer, à l'exemple de Jésus-Christ face à Ponce Pilate, devant lequel il n'a pas renié qu'il était le Messie, tout en sachant pertinemment que cela était inacceptable tant pour les Romains que pour les Juifs. Le Seigneur, au risque de sa perdre la vie, n'a rien renié de sa foi, et de sa nature, et de son identité. Ensuite, et pour terminer, l'homme de Dieu se reconnaît à ce pourquoi il se bat. L'homme de Dieu se reconnaît à ce qu'il fuit, l'homme de Dieu se reconnaît à ce qu'il recherche, et l'homme de Dieu se reconnaît à ce pourquoi il se bat. Il y a deux manières de voir le combat de la foi tel que Paul l'expose. Il y a le combat pour maintenir la foi. Je crois que le texte est un petit peu avant, mais enfin, c'est pas grave. Donc, il y a le combat de la foi tel que Paul l'expose, et il y a le combat pour maintenir la foi. Le combat par le moyen de la foi. Paul demande à Timothée de poursuivre la justice, la piété, la foi, mais Timothée est déjà un chrétien. Le but du combat est donc la foi elle-même. Il est converti, Timothée, c'est un homme de Dieu. Cela nous encourage à ne pas se satisfaire uniquement du peu de foi que nous avons, comme si elle était tout ce dont nous avons besoin, et comme si elle résisterait sans combattre à toutes les attaques de l'ennemi. Je veux dire par là, ne pensons pas que la foi que nous avons aujourd'hui est suffisante pour affronter les défis de demain. Et même si nous n'avons pas de défis particuliers, il n'empêche que Dieu peut encore faire augmenter notre foi. Et c'est son désir jusqu'à ce qu'il nous prenne avec lui pour l'éternité. Si on baisse la garde et que l'on commence à se complaire dans l'état dans lequel on est, c'est-à-dire une foi lambda, comme l'on dit, hein, et si on se laisse aller et qu'on pense que tout va bien se passer, en se basant sur nos actes de foi passés, on risque d'avoir des surprises un jour, lorsque nous rencontrerons le Seigneur. Mais on peut aussi avoir des surprises ici-bas sur cette terre, si on se complaît dans une certaine facilité. L'épitaphe triomphale de Paul fut la suivante en 2 Timothée 4,7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ces trois expressions signifient la même chose. Combattre le bon combat de la foi, c'est combattre pour garder la foi. Et c'est une lutte pour chaque chrétien véritable de ne jamais abandonner ce combat. Quels sont nos combats d'aujourd'hui ? Sont-ils dans la prière parce qu'on a des difficultés à prier ? Ou nos combats sont-ils pour un gain sordide ? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous battre aujourd'hui ? Pour obtenir quelle chose ? Une plus grande vie de prière, une plus grande foi ou plus d'argent ? Et plus de réussite sociale ? Le combat que vous menez est-il sur le terrain pour gagner des âmes à Christ ? Ou à l'intérieur de l'Église parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ? Qu'est-ce qu'on est en train de combattre ? Qu'est-ce que vous êtes en train de combattre ? Quel est votre combat actuel ? Peut-être vous n'avez aucun combat. Et en cela, il y a quelque chose d'anormal, parce que nous sommes invités à grandir en Dieu. Le combat de la foi, c'est un bon combat parce que nous ne sommes pas seuls. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met à la disposition de chacun d'entre nous toute la puissance qui est la sienne par la présence du Saint-Esprit en nous pour nous conduire dans ce combat. Quand un homme de Dieu combat le bon combat de la foi, Dieu est avec lui et lui donne le pouvoir de défaire l'adversaire. ou de vaincre le péché. Pourquoi ? Parce que Dieu combat à notre place. Le combat de la foi, c'est un don de Dieu. C'est un bon combat parce que c'est un combat d'abandon. Ce n'est pas un combat pour porter des fardeaux, mais c'est un combat pour laisser nos fardeaux être portés à notre place. Quand je n'arrive pas à prier, je suis insatisfait par ma vie de prière. Au lieu de m'accuser, je dois simplement dire à Dieu, « Mais Seigneur, je n'y arrive pas. Donne-moi par ta puissance d'être alimenté de ta vie, par ton Esprit Saint. » Le combat chrétien n'est pas un combat où on se charge de choses écrasantes. Au contraire, on les donne, nos incapacités, on les donne à Dieu, pour que lui puisse nous donner ses capacités à lui. C'est l'évangile de la grâce. Ce n'est pas l'évangile du refoulement, de l'écrasement, du découragement. C'est l'évangile du renouvellement, du pardon, de la miséricorde et de la toute-puissance de Dieu. C'est un combat de confiance en Dieu, dans le fait qu'il est capable de porter le poids des fardeaux, et même celui de l'humanité, c'est-à-dire le péché. C'est un combat de libération de nos inquiétudes, d'espoir, de paix et de joie. C'est un combat que nous ne devons pas mener tout seuls. Et c'est peut-être ce qui fait la difficulté de la vie chrétienne moderne, contemporaine. C'est que l'individualisme développé par la société occidentale, et particulièrement française, nous amène à penser qu'on peut vivre notre foi tout seul devant Dieu. Mais la Bible dit plutôt, en Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. Et prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Veillons les uns sur les autres. Exhortons-nous, encourageons-nous, entourons-nous les uns les autres pour que nous puissions nous aider les uns les autres dans ce combat de la foi. Mais, comme il est dit dans ce texte, Hébreux 3, versets 12 et 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Encourageons-nous, réconfortons-nous, avertissons-nous les uns les autres, avec amour, respect, mais faisons-le, parce que nous ne sommes pas appelés à vivre notre vie chrétienne comme des indépendants, solitaires, tout seuls face à nos difficultés. Ces paroles de Dieu nous invitent à vivre le bon combat de la foi ensemble et non pas isolés. Examinons-nous nous-mêmes, comme le demandent les Saintes Écritures, afin que Dieu puisse nous dire, lorsqu'il va nous rappeler à lui, ou venir nous chercher, « Bon et fidèle soldat, tu as combattu le bon combat de la foi. » Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.